Bonsoir. L'Union européenne a octroyé au gouvernement congolais une enveloppe de 620 millions d'euros dans le cadre du Fonds européen de développement sur 5 ans. Déclaration de l'ambassadeur de l'Union européenne à l'occasion de la fête de l'Europe la semaine dernière à Kinshasa. Ces fonds seront affectés entre autres à la santé, la réforme de la justice, de la police et de l'armée, mais aussi à celle des finances publiques. Quelle analyse faire de la contribution de l'Union européenne en RDC? C'est le thème que nous abordons ce soir et pour en parler, je reçois Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Lems Kamwanya, bonsoir. Vous êtes analyste économique. Michel Sommé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également analyste économique. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
620 millions d'euros octroyés à la RDC par l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen de développement pour une période de 5 ans. Ces fonds seront affectés entre autres à la santé, la réforme de la justice, de la police et de l'armée, mais aussi à celle des finances publiques. Berry Franklin Luchaka pour les détails.
Lors de la fête de l'Europe, l'ambassadeur de l'Union a fait savoir que son institution est prête à poursuivre son appui aux autorités congolaises pour qu'elles puissent mettre en œuvre les engagements pris au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et les 620 millions d'euros entrent justement dans le cadre du 11e Fonds européen au développement centré sur cet objectif pour la période 2014-2020. Et les secteurs prioritaires de ce nouveau fonds sont répartis comme suit. Le secteur relatif au renforcement de la gouvernance et état de droit sera financé à hauteur de 160 millions d'euros, soit 26% de la somme globale allouée à la RDC. Le secteur de la santé et celui de la réhabilitation de la route nationale numéro 1 Axe Chikapa-Mbujimayi bénéficieront des 150 millions d'euros chacun, soit 24% de ce montant. Le secteur de l'environnement et agriculture durable bénéficiera de 130 millions d'euros, soit 21%. Enfin, la société civile bénéficiera de 12 millions d'euros, soit 2% de ce montant global, alors que les autres mesures d'intervention sont évaluées à 18 millions d'euros. En ce qui concerne d'abord la gouvernance, l'Union européenne tient à financer la réforme de la justice, de la police et de l'armée, ainsi que des finances publiques. Ensuite, le secteur de la santé se focalisera sur l'accessibilité aux soins de santé de qualité, l'amélioration de la capacité institutionnelle du ministère de la Santé et l'intégration des zones de santé couvertes par des interventions humanitaires. En ce qui est du secteur environnemental et agriculture durable, l'objectif est entre autres la protection et la valorisation des écosystèmes forestiers de la RDC et l'amélioration du système d'assainissement de la ville de Kinshasa.
Merci Berry Franklin Luchaka. Jean-Michel Dumont, vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Monsieur l'ambassadeur, 620 millions d'euros dans le cadre du Fonds européen de développement, est-ce un prêt ou un don? Nous avons reçu plusieurs questions dans ce sens des auditeurs.
Pour la République démocratique du Congo, notre assistance a été depuis le début toujours en don et uniquement en don.
Alors, il y a une clé de répartition. Qu'est-ce qui justifie les différentes clés de répartition? Par exemple, pour l'environnement et l'agriculture, c'est 130 millions d'euros. Pour le renforcement de la gouvernance, 160 millions d'euros. Qu'est-ce qui justifie cette répartition?
Bon, ben, en gros, c'est un quart pour chacun des quatre secteurs, avec une assistance toute particulière sur la gouvernance, puisque ce pays est riche de potentialités, et ces potentialités, cette croissance importante ne se traduisent pas pour la population, c'est d'abord pour des problèmes de gouvernance. Donc le gouvernement s'y est attaqué depuis plusieurs années, et donc nous l'accompagnons dans son effort.
Alors, monsieur l'ambassadeur, comment, à votre niveau, au niveau de l'Union européenne, vous jugez votre contribution au développement de la RDC?
Écoutez, c'est d'abord au gouvernement et aux populations, à travers leurs représentants, à travers les organisations de la société civile, à travers le dialogue que nous avons avec les Congolais, de définir les grandes orientations. Et ensuite, c'est nous, en liaison avec les autres partenaires, à nous coordonner pour apporter l'aide la plus efficace possible, l'objectif étant clair, c'est la paix et la stabilité dans la région, c'est une croissance qui bénéficie à la population et c'est un système démocratique où les droits de l'homme sont respectés.
Alors 620 millions d'euros qui s'étendent sur 5 ans pour un pays aux dimensions continentales est suffisant?
Ce n'est jamais suffisant, mais c'est déjà beaucoup.
Il y a également des secteurs, monsieur l'ambassadeur, tels que la réforme de la police, de l'armée, qui ont commencé depuis très longtemps, mais certains observateurs pensent que les résultats ne sont pas palpables. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, il y a beaucoup de progrès à faire, mais évidemment, tout cela met pas mal de temps pour se traduire dans la réalité. Je pense à la police. Bon, quel est l'objectif, hein? C'est d'avoir une police qui soit professionnelle, qui soit républicaine, qui soit respectueuse des droits des personnes et qui ne soit pas, comme on le voit encore trop souvent dans les avenues, les boulevards de Kinshasa, qui arrêtent les automobilistes pour les rançonner. Et donc, cela suppose une formation des cadres. Pour cela, il faut une académie de police, et donc cela va prendre évidemment un certain temps avant que on définisse quels vont être les cours, qu'on construise les bâtiments, et une fois que les bâtiments sont construits, on y installe des cadres pour qu'ils soient formés et qu'ils soient en position de commander. Donc évidemment, ça prend un certain nombre d'années.
Alors la police respectueuse des droits de l'homme, vous avez évoqué vous-même le cas de la police qui continue à rançonner certaines populations. Peut-on dire qu'on est encore très loin d'atteindre les objectifs au niveau de l'Union européenne?
Écoutez, si les objectifs étaient atteints, nous ne serions plus là. Et notre souci et notre espoir, c'est qu'effectivement, le développement se fasse de façon qu'on n'ait plus besoin de nous à un certain moment. Je dirais qu'on est en chemin et qu'on est là pour accompagner le pays, les autorités, la population dans ce chemin.
Je prends, monsieur l'ambassadeur, l'exemple du secteur de la santé. Il y a 150 millions d'euros, soit 24% du montant réservé à ce secteur. Dans les détails, il est dit que ce secteur se focalisera sur l'accessibilité aux soins de santé de qualité, l'amélioration de la capacité institutionnelle du ministère de la Santé, niveau central et provincial, et également l'intégration des zones de santé couvertes par des interventions humanitaires, monsieur l'ambassadeur. Mais quand vous suivez, par exemple, le ministre d'État congolais au budget, Michel Bongongo, a annoncé que plus de 170 millions de francs congolais sont soutirés mensuellement du trésor public à Kinshasa par des réseaux mafieux, essentiellement dans les secteurs de sécurité. Comment vous ressentez ça?
Écoutez, c'est quelque chose contre lequel nous luttons avec les autorités congolaises. Et lorsqu'il y a effectivement des manquements, cela peut nous amener à prendre des sanctions, c'est-à-dire, dans certains cas, à interrompre des programmes et des versements. Cela s'est déjà fait dans le passé, dans certaines régions de la République démocratique du Congo, et cela continuera si besoin est. Sur ces trois volets, ils sont très très différents par leur ampleur et leur nature. Notre objectif, il est en fait de construire une offre de soins effectivement accessible à tous, et financé en partie à hauteur d'environ 30% par une demande solvable payée par ceux qui peuvent payer. Donc l'objectif, c'est de véritablement construire un système structuré et pas simplement d'apporter des soins au coup par coup, de construire un hôpital au coup par coup. Pourquoi? Parce que si vous avez par exemple un système d'assurance maladie et qu'en face, hein, vous n'avez pas d'offre de soins, cela ne sert à rien. Donc il faut que les deux aillent ensemble. Et donc ce sont des objectifs qui visent à un résultat de longue durée. Alors, il y a effectivement de temps en temps des problèmes. On y veille, on fait attention, on prend des sanctions. Mais je dirais quand même que nous sommes engagés depuis très longtemps dans le domaine de la santé. Pas partout, hein, en République démocratique du Congo, parce que les besoins sont immenses. Essentiellement au Kasaï, dans les Kivu et en province orientale. Mais ce qui est important, c'est de regarder le résultat sur le long terme. Ce qu'on voit, c'est que l'espérance de vie a augmenté en quelques années, que la mortalité infantile a diminué, la mortalité maternelle a diminué. Et en particulier, L'impact, alors, bon, vous savez, toujours le problème des statistiques, c'est un peu compliqué, on peut faire dire beaucoup de choses. Les raisons de cette amélioration, elles sont aussi multiples, mais ce qu'on constate, et on est très satisfait, c'est de voir que dans les régions où on intervient, ça représente à peu près 4,5 millions de Congolais, les indicateurs se sont mieux améliorés que dans le reste du pays. Donc, pour les choses qui comptent vraiment, c'est-à-dire l'espérance de vie, c'est plusieurs années quand même de progrès en quelques années, et une diminution quand même importante, même si les chiffres restent terribles, de la mortalité infantile et de la mortalité des femmes en couche aussi.
Alors avant que je ne donne la parole aux autres interlocuteurs, monsieur l'ambassadeur, une réponse rapide, là, on est en période électorale, dans votre discours j'ai vu, vous dites quelque part que le train a déjà quitté la gare, mais on ne voit pas transparaître dans ces fonds la part réservée aux élections. Y a-t-il une autre enveloppe pour cet aspect-là ou c'est compris?
C'est compris éventuellement dans l'enveloppe consacrée à la gouvernance. Nous sommes entrés dans un dialogue avec les autorités congolaises. On attend une réunion du comité de partenariat avec la CENI pour connaître maintenant que le calendrier global est publié, quel est le plan de décaissement, quel est le budget réel, qu'est-ce que le gouvernement congolais va apporter, qu'est-ce que les partenaires vont apporter. Et donc, on attend une discussion, un débat franc et ouvert avec nos partenaires congolais.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Lems Kamwanya, vous êtes analyste économique. Comment vous recevez ces dons alloués à la RDC par l'Union européenne?
Oui, bon, je dirais, parce que nous parlons d'un don, quelque chose qu'on vous donne, vous ne pouvez pas le refuser. Déjà, c'est un effort qui montre que dans les autres pays, il y a cet effort de gouvernance qui est fait, d'épargne qui est fait pour que ces pays soient en mesure de couvrir leurs propres dépenses et de songer aussi aux autres. Ça, c'est une bonne chose. Mais les côtés où, moi, je pense, il faut essayer de relativiser ces dons, c'est le fait que l'Union européenne, c'est un partenaire pour les gouvernements. En tant que partenaire, ce n'est pas parce qu'on vous donne, on vous dit voilà ce que nous allons faire. Je crois que la démarche la plus importante, elle devrait être une démarche participative. Qu'on regarde l'enveloppe disponible. C'est vrai, l'ambassadeur l'a dit, ce n'est pas assez, c'est déjà beaucoup. Quand on regarde 620 millions sur 5 ans pour un pays comme le nôtre, ça fait à peu près une moyenne de 120 millions de dollars par an. Encore là, c'est juste au niveau de l'engagement, parce que quand on doit rentrer dans les décaissements, je sais que les procédures de l'Union européenne en matière de décaissement, elles sont assez lourdes. J'aurais voulu aimer que l'ambassadeur ici nous dise, par exemple, par rapport au 10e Fed ou au 9e Fed, quel a été le taux réel de décaissement, parce que je sais que il y a une bonne partie des crédits qui ne sont pas consommés. C'est là notamment dû aux procédures, sans compter aussi la plupart des prestataires, peut-être qui sont d'origine de l'Union européenne, qui consomment une bonne partie de ces dons.
Ça, c'est aussi dans les frais de fonctionnement.
Oui, les consultants et les autres qui interviennent. Donc, ce qui fait que généralement, peut-être environ 20-30% de ces montants, ils s'envolent dans ce sens-là. Alors, donc, le plus important, j'ai dit, dans une démarche de partenariat avec un État qu'on accompagne depuis longtemps, une démarche participative pour voir ces montants-là, c'est vrai que ce n'est pas assez, on peut les considérer comme beaucoup, à quel niveau on peut les concentrer, quelles sont au fait les priorités, ou quand on arrive à décaisser ces montants, qu'on sente effectivement qu'il y a un réel avancement, qu'il y a un réel progrès, au lieu que ça donne l'impression d'être un saupoudrage qui, au finish, on ne sent pas des effets majeurs de ces financements, quoi que ça peut aider par-ci, par-là, on ne sent pas d'avancée majeure. Vous-même, vous avez évoqué, ce n'est pas aujourd'hui qu'on nous parle de l'appui à la réforme de la justice, de la police et de l'armée, mais au fil du temps, on se rend compte que les mots qui voulaient être corrigés ne font que s'accroître.
On l'a peau dure.
Voilà. Parce que, est-ce que les remèdes qui sont utilisés ne sont pas efficaces? Est-ce qu'on prend les véritables problèmes par les cornes? Est-ce que les efforts qui sont injectés ne sont pas aussi forts? Je vois que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait quand même que ces dons soient quand même relativisés, qu'on regarde dans quel secteur on peut les orienter en concertation avec le gouvernement congolais, étant donné que les enveloppes ne sont pas aussi importantes quand on considère les besoins de notre pays, quand on regarde les problèmes multiples auxquels on fait face. Mais au moins, si on a une démarche méthodique de dire, voilà, par rapport à ces montants, on sait que cette utilisation pourra être efficace plutôt que saupoudrée et décidée à l'avance. Je pense que ça pourrait être une bonne chose.
Alors, de façon un peu plus générale, quelle analyse pouvez-vous faire de la contribution de l'Union européenne en RDC?
Oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit, cette contribution est toujours importante parce qu'elle arrive tant soit peu à soulager les budgets de l'État, elle arrive tant soit peu à régler certains problèmes que nous-mêmes, avec nos maigres revenus, on n'arrive pas à régler. Et c'est ainsi que j'ai dit, il faut toujours saluer, quand bien même ce n'est pas peut-être à la hauteur de nos problèmes, parce qu'il l'a dit, il n'appartient pas à l'Union européenne de régler nos problèmes. Nos problèmes sont les nôtres, nous devons les régler. Tout ce qu'on a comme financement, ce n'est qu'un appoint qui vient quand même soulager. De ce côté-là, je crois qu'il faut avoir une démarche assez constructive, reconnaître quand même le fait qu'il soit engagé. C'est pourquoi moi, j'aimerais aller au-delà des simples chiffres pour m'inscrire dans ces démarches d'un véritable partenariat qui peut être à la fois technique et financier. Techniquement, je sais que l'Union européenne a l'expérience dans le domaine de la gouvernance, comment ils peuvent nous aider à régler les problèmes, comment nous pouvons discuter, échanger. Et les fonds qui sont donnés, quoique pas assez importants, associés avec cet appui technique, pourraient quand même nous permettre de régler pas mal de choses.
Dans son discours, l'ambassadeur Jean-Michel Dumont a notamment dit que la clé de l'émergence de la RDC se trouve dans les mains du gouvernement et du peuple congolais lui-même.
Tout à fait.
Sentez-vous suffisamment de détermination, Lems Kamwanya, du côté du gouvernement pour capitaliser ce soutien, par exemple, de l'Union européenne?
Bien entendu. Je crois que un homme devrait commencer par prendre avoir la conscience de ses propres efforts et de ses propres faiblesses et solliciter l'appui des autres pour dire, voilà, dans ces domaines-là, j'ai quand même des lacunes, j'ai quand même des limites, vous pouvez arriver à me secourir. Je crois qu'aujourd'hui, la RDC, il a essayé de prendre à bras le corps les problèmes de son développement, la résolution de ses problèmes, mais il s'est fait que, nous disons, nous sommes un pays potentiellement riche, mais on n'arrive pas toujours à développer ses potentialités en véritable richesse pour nous permettre de régler la plupart de nos problèmes. Regardez la hauteur de notre budget par rapport à nos problèmes. Regardez la hauteur de notre PIB. Regardez les réseaux mafieux, la corruption qui gangrène l'État. Donc nous sommes minés par beaucoup de problèmes qui, en dépit de notre détermination, qui se présentent aujourd'hui comme des élans qui contrecarrent tous les efforts positifs que les gouvernements pourraient mettre en place. Je crois que de ce côté-là, il faudrait que cette détermination soit aussi accompagnée par ceux-là qui peuvent nous aider à régler certains problèmes.
Vous avez parlé d'une démarche qui devrait être participative, où on devrait associer l'État congolais pour déterminer les priorités. Avez-vous l'impression que cette manière de partager ces fonds entre la santé, l'environnement, la gouvernance, ces fonds sont-ils éparpillés?
Oui. Peut-être que je n'ai pas été personnellement associé à la manière dont on est arrivé à cela, mais en tant que l'ambassadeur, c'est comme si au niveau de l'Union européenne, ils ont déterminé pour eux quelles étaient les grandes priorités. Mais la pratique que nous avons avec d'autres bailleurs, tels que la BAT, tels que la Banque mondiale, parfois, c'est de préparer des projets, c'est de discuter, de voir quels sont les vrais problèmes, quelles solutions apporter, quelles enveloppes. C'est cela que moi j'appelle une démarche participative, plutôt que venir avec un fonds pour dire c'est autant, voilà comment on est réparti et sur telle période. C'est comme si c'est une solution qui nous vient, qui a été préparée de l'extérieur sans que nous puissions nous-mêmes participer à cet effort-là.
Et quelquefois on a du mal à se l'approprier.
Exactement.
Alors, Michel Somoui, vous êtes également analyste économique. Vous avez suivi Lems Kamwanya ainsi que l'ambassadeur Jean-Michel Dumont. Comment vous analysez ce don de l'Union européenne?
Merci Alain. D'abord, je voudrais dire que nous sommes au 11e Fonds européen de développement et que le fait d'être un instrument de coopération qui a été mis en place dans le cadre du partenariat entre les pays européens et ceux de la zone ACP, comme on les appelle Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et je voudrais aussi préciser que la RD Congo fait partie de ces accords depuis 1963, c'est-à-dire depuis la première convention de Yaoundé jusqu'à ce jour. C'est dire que nos rapports avec l'Union européenne sont date de très longtemps, et l'ambassadeur l'a mentionné d'ailleurs, ça fait longtemps que nous coopérons avec l'Union européenne. La question n'est pas en soi, n'est pas tant le fait que l'Union européenne nous apporte ou pas de l'aide. Encore faut-il que je dise en passant que je ne suis personnellement pas partisan de l'aide, parce que d'après ma conception et d'après l'expérience de mon pays, l'aide tue le développement. Et on sait que l'aide alimentaire en particulier a tué l'agriculture dans ce pays. Mais dans le cadre particulier de la coopération ACP-CE, on ne peut pas reprocher à l'Union européenne d'exécuter un accord de partenariat qui est, j'allais dire, multilatéral et qui permet à un pays comme le nôtre de se mettre au diapason des autres pays dans le cadre des accords avec les partenaires extérieurs. Cependant, il se pose une question, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est la question de l'efficacité de l'aide. Il a mentionné aussi, en intervenant, qu'on ne peut pas, quand c'est un don, on doit l'accepter, parce qu'on dit à cheval donné, on ne regarde pas la bride. Mais il est quand même important de savoir que le mal se cache aussi derrière des actes de générosité.
C'est-à-dire
que nous sommes africains. La sorcellerie se transmet à travers des actes de générosité. J'ai parlé tout à l'heure de l'aide qui tue le développement. J'ai parlé dans le cadre particulier des relations ACP-CE, on s'est déjà posé la question une fois de savoir si on était en train de participer à une coopération au développement ou à une coopération à la corruption. Étant donné que plus de 50 ans après les accords de coopération ACP-CE, un pays comme le Congo demeure dans la même situation, sinon pire. C'est vrai, il n'appartient pas à l'Union européenne de nous apporter le développement, mais je reproche à l'Union européenne le fait de passer à côté des véritables instruments de coopération dont nous avons besoin dans ce pays. Quand on parle du Fonds européen de développement, on devrait en priorité se référer à ce qu'on appelle le programme indicatif national. Chaque pays ACP présente à l'Union européenne son programme indicatif national qui rassemble l'essentiel des projets de développement considérés comme tels par le gouvernement de ce pays.
En fait, c'est ça que Lems Kamoana a appelé une démarche participative.
Si on peut l'appeler ainsi, avec une nuance, que quand M. Kamoana parle de la démarche participative, il voit, j'ai comme l'impression, je lis un peu dans sa pensée, il voit un peu des méthodologies de travail, il a fait allusion tout de suite à la BAT, il voit notamment ce que nous avons fait à travers le DSRP, etc., c'est une nouvelle méthodologie de travail, mais la coopération ACP-CE remonte à beaucoup plus longtemps que ces nouvelles conceptions, ces nouvelles méthodologies de travail qui viennent pour, en quelque sorte, pour corriger le fait qu'on avait des impositions qui venaient presque de façon, j'allais dire, discrétionnaire de la part de nos partenaires. Mais ce que je dis essentiellement, c'est que il se pose un énorme problème d'efficacité de l'aide, étant donné que l'aide que l'Union européenne nous apporte, c'est un prêt-à-porter. Donc l'Union européenne conçoit un peu à la façon d'un général de l'armée qui estime que celui qui doit savoir quelle est la quantité de nourriture que son soldat doit manger pour se rassasier. Et celui qui parfois estime que le soldat est déjà rassasié et lui dit, mais monsieur, vous êtes déjà rassasié, tenez-vous de vous partez.
À la limite paternaliste.
Exactement. C'est un peu ça que l'Union européenne fait. C'est en cela que cette aide, surtout lorsqu'elle n'est pas demandée, ne me semble pas satisfaisante. Mais l'aide, j'insiste, tant que c'est dans le cadre de la coopération ACP-CEE, doit se référer essentiellement au programme indicatif national. Je ne sais pas lequel a été présenté par le gouvernement de mon pays, au moment où on a conclu les accords, je crois, de Cotonou, mais je ne sais pas quel le programme qui a été indiqué, mais j'estime que je ne vois pas le gouvernement de mon pays, dans cette période particulière, où nous avons des problèmes plus sérieux, plus précieux, demander à l'Union européenne d'apporter de l'aide qui est essentiellement concentrée sous forme d'assistance technique. Et quand on dit projet d'investissement, de quel projet d'investissement s'agit-il pour l'Union européenne? Moi, je voudrais terminer par là. Allez, je vois que vous avez une question sur le bout des lèvres. Je vais terminer par là. Lorsque nous regardons, par exemple, la structure, les rapports entre l'Union européenne et la RD Congo, si on tient compte, si on regarde du côté, par exemple, des relations commerciales. Vous savez, l'Union européenne représente à peu près 23% de nos exportations, de nos importations, de nos commerces extérieurs, pour dire bref. Mais nous aurions aimé que l'Union européenne nous apporte, s'il veut vraiment nous aider, nous apporte de l'aide du côté de la restructuration de notre système de commerce international, de rapport avec eux. Par exemple, au lieu que le secteur des entreprises minières rafle 90% des recettes minières, mais que ce soit par exemple un appui significatif à l'agriculture, quand l'Union européenne sait très bien que le Congo est essentiellement un pays agricole.
Alors, Michel Soumoué, la RDC est demeurée dans la même situation qu'il y a 50 ans, mais je citais tout à l'heure à l'ambassadeur l'exemple du ministre d'État Michel Bongongo, qui dit qu'il y a des détournements dans le secteur de la santé, mais entre-temps, il y a de l'aide qui arrive et il y a des détournements d'un autre côté. La responsabilité ne figure-t-elle pas dans le camp des Congolais?
Mais je crois que de toute part, j'ai parlé de la coopération à la corruption. Parce que figurez-vous qu'à la tête de tous les ministères stratégiques de notre pays, il y a des assistants techniques étrangers qui nous sont recommandés tantôt par l'Union européenne, tantôt par le Fonds monétaire international. Ils sont là. Allez, vous allez à la DGI, vous allez au ministère du budget, vous allez à la présidence, vous allez à la primature, vous allez à la banque centrale, vous allez trouver des experts, des étrangers qui sont là, comme dans le cadre de l'assistance technique. Et des aides qui nous viennent de l'Union européenne, en réalité, c'est de l'aide qui retourne à l'Union européenne, d'une façon ou d'une autre. Parce qu'à travers des mécanismes d'assistance technique, qui sont supposés disposer de cette technicité? Ce sont des Européens.
Voilà, nous allons donner l'opportunité à M. l'ambassadeur de répondre. Mais avant, M. l'ambassadeur, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Isaac Bamporis de Bukavu au sud Kivu. La République démocratique du Congo est une grande consommatrice de l'aide au développement, mais elle n'obtient jamais la cote positive en ce qui concerne le bon usage de cette aide. Et curieusement, cela ne décourage guère les partenaires étrangers, car sans doute, ils connaissent bien les dividendes qu'ils tirent de ce perpétuel état trop dépendant malgré ses potentialités. Cette question est cruciale pour la vie de la nation. Elle mérite aussi la tenue des états généraux, comme cela vient d'être fait pour la justice.
Monsieur l'ambassadeur, commencez par l'auditeur.
Écoutez, toutes les questions se rejoignent. Bon, tout d'abord, la question sur l'efficacité de l'aide et sur l'aide est-elle utile est bien connue. Et c'est une vraie problématique. C'est vrai que ça facilite la corruption, ça facilite beaucoup les effets pervers. Il y a un livre célèbre et qui avait fait scandale à l'époque de Dambisa Moyo, économiste ambienne, sur l'aide fatale, et on pourrait en discuter, mais ça mériterait sans doute un peu plus qu'une heure sur le sujet. Ce que je dirais, c'est que nous connaissons les difficultés et nous travaillons avec. Par exemple, sur l'agriculture, je dirais que on pourrait parler de la responsabilité de l'aide alimentaire, mais fondamentalement, la décadence de l'agriculture congolaise, elle est liée à la prédation exercée par un certain nombre de fonctionnaires à l'époque Mobutu, à la fin de l'époque Mobutu, et il y a eu un phénomène qu'on constate dans tous ces cas-là, qu'on a pu voir en Chine, en Ukraine, en Éthiopie, c'est-à-dire que les paysans, dans ces cas-là, ils produisent uniquement pour eux. Maintenant, le problème, aujourd'hui, il est la poursuite des harcèlements fiscaux et autres, et le problème du foncier, tant qu'on n'aura pas réglé ces deux problèmes, on n'aura pas réglé le problème de l'agriculture congolaise. Nous, ce qui nous concerne, c'est de nous aligner sur les programmes définis par le gouvernement congolais. Notre souhait le plus cher, c'est vraiment que ce soit le gouvernement congolais qui définisse des priorités claires, et qu'ils nous disent, même, comme ils font dans certains pays, vous faites ci, vous faites ça, et que nous alignons purement et simplement. Alors, notre Bible, si je peux parler, c'est quoi? C'est ce document, alors, un peu dont on barbare, le DSRP2, donc le document de stratégie croissance réduction de la pauvreté. Le problème, c'est que ce document, il a le mérite d'exister, mais il ne fixe pas de réelles priorités. Et donc, aujourd'hui, on constate quoi? On constate qu'il y a les 5 chantiers, il y a le programme du gouvernement, il y a les lettres de mission du gouvernement, il y a les accords l'accord d'Addis Abeba, il y a les plans régionaux de développement.
En d'autres termes, la RDC elle-même a déjà beaucoup de difficultés pour déterminer ses priorités.
Ça, c'est extrêmement clair, et je crois que le ministre du plan et le premier ministre en sont parfaitement conscients. Et le problème le plus grave, c'est pas qu'il y ait une dizaine de documents qui traduisent les priorités du gouvernement, c'est que celle-ci ne se reflète pas dans le budget du gouvernement. L'exemple typique, c'est les dernières. Vous avez une grande conférence pour indiquer que la priorité va être à l'assurance retraite et à la caisse maladie. Et dans le budget qui est publié quelques jours plus tard, vous apercevez que les fonds qu'ils ont destinés à ces caisses sont en baisse. Donc nous, notre souci aujourd'hui, c'est que les exercices qui vont se tenir dans les semaines à venir, d'évaluation de l'accord d'Addis Abeba, de révision annuelle des documents de stratégie et de croissance, se traduisent dans les conférences budgétaires qui vont se tenir entre juin et l'automne. Et donc une fois que vous aurez ces priorités qui seront très clairement dans les conférences budgétaires, après pour nous, c'est beaucoup plus facile. Je vais quand même ajouter quelque chose concernant l'assistance technique, parce que on connaît les défauts et les perversités de l'assistance technique, et ça fait bien des années que, justement, on évite de faire de la substitution. Il y a aujourd'hui très très peu d'assistance technique, et quand vous regardez les contrats, ils sont essentiellement pour des entreprises congolaises, avec toutes les difficultés qu'on connaît, parce que la structure des entreprises congolaises fait que il est extrêmement difficile pour elles de gagner des appels d'offres et de réussir. Donc là, il y a une vraie difficulté structurelle dans l'économie congolaise.
Merci.
Mais non, parce que dire que l'assistance technique, c'est une part importante des fonds, c'est aujourd'hui totalement inexact.
Voilà. Alem Skamwania, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kindo Maniema.
C'est Augustin Mwango depuis Kalima dans la province de Maniema. C'est bien de financer notre pays pour l'aider à améliorer les différents secteurs de la vie, mais c'est aussi mieux d'évaluer les financements précédents, car l'expérience nous renseigne que la plupart des fonds décaissés en faveur de notre pays par la communauté internationale n'ont des retombées positives que sur papier, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. La République démocratique du Congo ne pourrait pas compter essentiellement sur l'aide extérieure s'il y avait la bonne gouvernance.
Voilà, Lem Skamwania, en partie, vous y avez déjà répondu. Vous avez suivi également les différentes réponses que l'ambassadeur a apportées aussi à cette préoccupation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, moi je pense, l'auditeur a raison. C'est parce que nous voulons présenter derrière des grands concepts, derrière des grandes réformes, peut-être qui nécessitent 100 fois les montants qui sont alignés, et les gens se disent, voilà, on va résoudre nos problèmes. Quand nous disons, nous nous attaquons à l'agriculture, nous nous attaquons à la santé, nous nous attaquons à la réforme de la justice, à l'appui à la police et à l'armée, quand on prend un fisc et ces volets-là, on sait que c'est un volet dans un pays comme le nôtre, il peut demander des milliards, pendant que peut-être on va y mettre 10 millions, 20 millions, 30 millions derrière. Là, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Tout le problème est là. C'est pourquoi moi, j'aimerais partager avec l'ambassadeur le fait que peut-être on a besoin de cohérence. Vous regardez ici le 11e Fed, il est aligné sur une période quinquennale qui va de 2015 à 2020. Si vous voyez les autres bailleurs, ils ont aussi la stratégie pays qui est alignée sur plusieurs années. Donc notre gouvernement, si aussi par exemple on a un plan pour la mandature, un plan pour 5 ans, on s'est dit, qu'est-ce que nous voulons faire? Dans ce que nous voulons faire, qu'on dise par exemple, dans les volets réforme de la justice, voici les actions qui sont prévues et voilà à quel niveau tel bailleur va intervenir. Parce que si on dit aujourd'hui on va appuyer les infrastructures, un pays comme le nôtre, quand on dit infrastructure, ça peut vous prendre 15 milliards, mais ici vous n'avez même pas 10% de ces montants pour l'ensemble de sur les 5 ans d'intervention. Je crois que c'est là que quand on doit évaluer, les gens se rendent compte qu'en réalité on n'a rien fait. C'est pourquoi je crois qu'il faudrait, aussi bien de la part des bailleurs que du gouvernement, quand il y a un tel fonds qu'on dise, on va construire des hôpitaux, on va former 100 policiers, on va par exemple financer, je ne sais pas, les semences pour 1000 hectares de champs. Là, c'est facile à évaluer plutôt que dire, après l'agriculture, à la compte de la police, qui sont en fait des grands programmes qui nécessitent des milliers de dollars ou des milliards de dollars. Et deuxièmement aussi, c'est comme je l'ai dit, même au niveau de celui qui donne, il faudrait que d'un fonds à un autre, entre le 9e et le 10e, le 10e et le 11e, qu'on évalue, qu'on regarde qu'est-ce qui a été fait, quels sont les résultats, que ces résultats fassent l'objet d'une campagne d'explication, qu'on dise ça, ça a été fait. Sinon, ça serait plus simple, on achèterait des véhicules, on mettrait dans l'Union européenne qui passerait peut-être comme un trompe-l'œil. Mais en réalité, est-ce que ça touche aux vraies priorités, est-ce que ça touche aux vrais problèmes, est-ce que ça les fait avancer? Je crois que concevoir l'aide, la restructure sous cette forme, sous ces formats-là, nous donnerait une autre lecture que telle qu'elle est présentée aujourd'hui.
Alors, sur le plan international, l'EMS Kamwanya, on a l'impression que les pays africains, la RDC n'échappe pas à cette règle, semblent plus à l'aise en se tournant vers la Chine qui veut donner en fermant les yeux par rapport à l'Union européenne, à d'autres partenaires.
Non, disons, la Chine ne donne pas en fermant les yeux. C'est-à-dire, avec la Chine, c'est vrai, l'Union européenne, nous disons, c'est notre partenaire traditionnel. C'est depuis longtemps qu'on a commencé avec eux. Mais peut-être, ce qu'il faut reconnaître, l'Union européenne n'a pas autant d'excédents que la Chine peut les donner aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit projet d'infrastructure 4 ou 5 milliards, personne ne peut aller en Europe, même les Européens vont chercher l'argent en Chine. C'est ça la réalité actuelle. Et les Chinois, ils se disent, bon, nous regardons telle infrastructure, tel projet, nous sommes prêts à y mettre des milliards qu'on ne sait pas aujourd'hui obtenir de l'Europe. Bon, maintenant, quand on dit à yeux fermés, non, pas forcément à yeux fermés, c'est-à-dire, au moins, ils approchent les vrais problèmes avec les montants qui sont à la hauteur de nos attentes. Et peut-être, ils sont très souples dans leurs procédures, qui ne sont pas aussi des procédures aussi rigoureuses. Je crois que dépenser peut-être 1 million de Chinois, c'est plus facile que dépenser 10 dollars des Européens. Ça, c'est la réalité.
Et dans tout ça, c'est le gouvernement congolais qui doit définir ses priorités.
Exactement. C'est pourquoi j'ai dit, une aide, on peut savoir comment la répartir. À celui qui donne 1 million, on va dire merci, tout comme à celui qui donnera aussi 10 dollars, on ne peut pas refuser. Mais c'est de savoir que les 10 dollars peuvent me permettre d'acheter une carte, mais si je dois, par exemple, manger un mois, j'ai besoin d'un million.
Voilà. Michel Somoy, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province orientale.
Faustin Apaliso, Aïsiro, la province orientale. L'action de l'Union européenne est louable, mais nous avons une politique de mégestion dans notre pays. À ne pas oublier que nous ne pouvons pas toujours tendre la main vers l'OTAN pour résoudre nos problèmes internes. Par conséquent, on s'enfonce davantage dans la pauvreté à cause des dettes.
Michel Somoy.
Il dit deux choses, il se contredit en même temps. Il loue l'action de l'Union européenne et puis il n'aime pas l'aide, c'est ce qu'il attend de dire en même temps. Oui, non, c'est vrai. Moi, je disais tout à l'heure que je ne suis pas partisan de l'aide. En tout cas, je ne le suis pas du tout, parce que l'aide nous fait dormir. Je regarde M. Dumont droit dans les yeux et je lui dis, non, M. Dumont, vous n'avez pas raison. C'est totalement inexact ce que vous dites aussi lorsque vous nous dites que l'agriculture a été tuée dans ce pays à cause de la prédation des fonctionnaires. Non, c'est vrai que vous faites allusion à la zaïrialisation, c'est ce que je veux bien comprendre. Mais moi je crois qu'effectivement à la même période, c'est lorsque notre pays a été envahi par des aides alimentaires venant notamment de l'Italie, que ça décourageait l'activité, notamment chez les producteurs de riz, par exemple. Le Congo était aligné parmi les principaux producteurs mondiaux de certaines denrées alimentaires, de certaines spéculations agricoles. Le maïs, le manioc, l'arachide, tout ça faisait du Congo un grenier africain de l'agriculture. Et nous étions des grands exportateurs de ces produits-là. Et à partir du moment où le riz italien est arrivé ici sous forme d'aide, des farines japonaises, etc., les cultivateurs de Bumba ont jeté là-haut parce que plus personne ne voulait acheter de ce riz-là. Et ceux de Kisangani, mes frères Batetela ont abandonné l'agriculture. Ça fait que nous nous sommes contactés aujourd'hui. Tout le monde estime qu'il est civilisé dans la mesure où il consomme le riz tout blanc, le long grain, le riz parfumé, etc. Ça fait la civilisation, mais ça tue l'agriculture chez nous. Ça, j'insiste et je dis, l'aide tue le développement et l'aide alimentaire tue l'agriculture en particulier. C'est vrai. Les contrats, l'assistance technique, dit M. Dumont, a sensiblement diminué et qu'aujourd'hui, les contrats sont avec les entreprises congolaises. Ça dépend de ce qu'il entend par entreprise congolaise. Si vous parlez des entreprises, moi je ne connais pas entreprises congolaises, autres que les PME qui sont membres de la COPEMECO, de la FENAPEC. Ce que vous appelez souvent entreprises congolaises, ce sont des multinationales qui sont transposées dans ce pays et qui bénéficient de ces aides qui viennent de l'Occident sous couvert de la SEC. C'est connu. Et regardez les secteurs bancaires. Toutes les banques sont des étrangers. Elles sont toutes au sein de la FENAPEC. Ce n'est pas votre problème, mais c'est une réalité. Les entreprises, c'est quoi? Et celles qui raflent 90% de nos recettes d'exportation, les entreprises minières, combien sont congolaises? Aucune. Alors, c'est la même chose. On peut s'éparpiller sur tous les secteurs. Les pétroliers, pour compléter l'échantillon, ce sont tous des entreprises étrangères. Ça nous pose problème lorsque vous contrastez avec les entreprises congolaises. Il faut bien définir qu'est-ce que vous entendez par entreprise congolaise, si ce n'est pas une autre façon de retourner toujours de l'aide d'où elle est effectivement
venue. Alors, Michel Soumou, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette contribution de l'Union européenne à la RDC soit plus efficace et plus efficiente?
J'ai dit une chose, j'ai précisé un domaine d'intervention où je voudrais voir l'action de l'Union européenne de façon concrète, le secteur de l'agriculture, parce que chez nous, ça occupe 80% de la population. Je voudrais que demain, nous nous rendions compte que nous avons des entreprises agricoles qui sont effectivement financées par l'Union européenne, pas sous forme d'assistance technique, mais ils ont le bureau, ils ont la Banque européenne d'investissement. Dans le même cas des accords ACPCE, la Banque européenne d'investissement, elle est là pour financer le secteur privé, notamment agricole. Mais combien d'entreprises agricoles congolaises peuvent accéder à un seul dollar de la Banque européenne d'investissement? Elle ne vient pas, Congo. Le Fonds européen de développement, le FED, dont nous avons parlé, parce que c'est de lui qu'il est question aujourd'hui, mais il se contente, au lieu de prendre en charge un programme indicatif national bien élaboré, qui définit nos priorités propres, réelles, non, il passe à côté, on nous apporte l'aide sous forme de la chicotte qu'on donne aux policiers pour distribuer aux gens. Il y a dans le cadre de l'accord ACPCE, je termine par là, voilà. Il y a deux instruments stratégiques pour le Congo, le STABEX et le SISMIN. Pourquoi l'Union européenne ne les active pas, ne les actionne pas pour la RD Congo? Voilà les secteurs où nous voulons voir l'Union européenne apporter une aide concrète, efficace à un pays comme le Congo.
Monsieur l'ambassadeur, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer. Il y a une proposition concrète de Michel Soumoué pour que la contribution de l'Union européenne à la RDC soit plus efficace et efficiente.
Non, je dirais que le véritable problème, c'est la préférence qui est donnée à l'importation par rapport à la production. Ça, c'est un phénomène qu'on constate dans les pays à économie de rente. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'activité est essentiellement tirée par la production de cuivre, et vous voyez un lien extrêmement direct entre la croissance de la production de cuivre et la croissance des importations agroalimentaires. Que vous prenez par exemple le riz, c'est très clair, il y a aujourd'hui des gens qui gagnent plus d'argent parce que c'est plus profitable d'importer du riz de Thaïlande, qui est vendu par les excédents que l'on connaît, et ensuite tout ce riz, en fait, en plus de mauvaise qualité, avec des pesticides et tout. Et donc, les gens qui sont là, qui sont des importateurs, ils sont favorisés par rapport aux producteurs. Ça, c'est un problème interne congolais. Et ça, on n'y change rien. Pour ce qui concerne les procédures sont lourdes, mais on arrive. Je veux dire, quand vous voyez les projets chinois, que ce soit Zongo 2 ou Sicomine, ils se sont développés dans des durées qui sont au moins aussi longues que les projets européens. Et aujourd'hui, on est, quand on regarde ex post, on est à peu près à 100% de décaissement. Donc on est sur des chiffres qui sont excellents. Alors, pour ce qui concerne l'évaluation, je dirais que s'il y a des programmes qui sont évalués, c'est bien les programmes de l'Union européenne, et même, je veux dire, qu'on passe un temps considérable sur l'évaluation, et sans doute même beaucoup trop.
Alors, monsieur l'ambassadeur, en guise de conclusion, parce que l'émission va se terminer, comment vous entrevoyez cette coopération entre l'Union européenne et la RDC en un mot?
Écoutez, nous, notre souci, il est extrêmement simple, c'est que le gouvernement, en liaison avec les instances élues, avec les organisations représentatives de la population congolaise, définissent leurs priorités. Parce que tant qu'il n'y aura pas une véritable appropriation, on n'y arrivera pas. Et merci. Que sur la base de ces priorités, nous sommes prêts à nous aligner.
Merci. Lems Kamonya, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite?
Nous devons dire à la population congolaise d'être réaliste. 620 millions d'euros sur 5 ans, si nous prenons même notre budget actuel qui est autour de, je dirais, plus ou moins 8 à 9, 10 milliards, si nous les mettons sur 5 ans, donc on peut se compter avoir un budget de 40 milliards. Donc ces montants ne peuvent pas dépasser 2% de ce que les Congolais eux-mêmes peuvent dépenser sur les 5 prochaines années. Et je crois que 1,5 à 2%, ce n'est pas tellement beaucoup, mais c'est plus important de dire les 1,2%, qu'est-ce que ça peut financer en réalité, que c'est réfugié derrière des grands programmes.
Merci, Lems Kamoya. Michel Somoy, conclusion.
Nous avons besoin d'argent, mais de beaucoup d'argent, de beaucoup trop d'argent. On n'a pas besoin de cette aide de miettes. On a besoin de milliards de dollars. Nous avons des collatérales, le collatéral, nous avons des garanties, nous avons une vaste forêt, nous avons la terre qui est fertile.
Et c'est à la RDC apportez, de s'organiser.
Apportez-nous du crédit, prêtez-nous de l'argent, prêtez-nous massivement de l'argent et nous allons vous le rembourser. Et donnez-nous beaucoup d'argent, mais sous forme de prêt plutôt que sous forme d'aide, nous allons travailler.
Voilà, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Kelly Nkoute, Berry Franklin Luchaka, Sylvain Matundu qui ont travaillé sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Présentation et coordination, Alain Roux-Mouchige, au revoir.